Alors j'ai hésité entre deux formulations de titres pour nos échanges ce matin. Le premier, c'est appeler à marcher humblement devant Dieu. Et la seconde formulation, c'est un défi pour ma vie, marcher humblement devant mon Dieu. Je pense que c'est vraiment un défi. Alors c'est vrai que Samuel, dans son introduction, nous a au moins cité deux moyens que l'Éternel a utilisés pour diriger son peuple. Et je fais le pont, le lien avec deux premiers versets qui nous indiquent quels sont les moyens, en tout cas, que Dieu utilise pour nous aujourd'hui, son peuple spirituel, ses enfants rachetés. Dans Timothée, il nous est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et l'apôtre Paul d'ajouter à l'épître aux Hébreux au chapitre 4, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Voilà, comme ça on est bien armé, on a ce qu'il faut. J'espère que vous avez tous la parole de Dieu chez vous. Alors, ce matin, nous allons ouvrir la parole, et je pense une fois de plus dans la confiance de ce qu'elle peut, cette parole, orienter positivement nos pensées et nos vies. Être dans une disposition de cœur telle qu'elle nous mette en position de pouvoir recevoir un enseignement particulier, nous mettre en capacité de changer nos manières de voir, de réfléchir, de penser et d'agir. Et je vous propose la lecture d'un chapitre, le chapitre 26 du deuxième livre des Chroniques. Donc, 2 Chroniques, chapitre 26. Et vous remarquerez que dans ce résumé de cette histoire du roi Ozias, il y a vraiment deux périodes très nettement distinctes. Donc, 2 Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. Ozias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées de la plaine, et des laboureurs, et des vignerons dans les montagnes, et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, compté d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire de Jehiel et le commissaire de Maaseja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sous les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra avec près de lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire comme tu commets un péché, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel, ton Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils se mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme un lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jonathan, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, ont été écrites par Ésaïe, fils d'Amos, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux, et Jonathan, son fils, régna à sa place. Quelle histoire! Alors, ce second livre des Chroniques nous parle des différents rois de la tribu de Juda, c'est-à-dire la moins éloignée de Dieu en son temps. Ozias apparaît dans ce second livre des Chroniques comme le dixième homme à partir de Salomon, à qui Dieu confie la direction de son peuple. Et nous découvrons dans ce livre, au-delà des noms des rois de Juda, mais en même temps leur vie. Nous découvrons leur vie, nous découvrons leur type de gouvernance et leur relation avec Dieu et leur relation avec le peuple de Dieu. Le roi Ozias est également appelé Azaria. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre de Deux Rois au chapitre 14. La vie et les expériences de ces rois parlent à nos cœurs. Pour nous rappeler, et ce matin donc, les circonstances dans lesquelles Ozias a exercé son règne, et les enseignements et les exhortations que ces circonstances peuvent nous inspirer. Alors pour ce qui est du Zacharie que l'on découvre dans ce texte, c'est pas le Zacharie dont le livre porte le nom, hein, ce Zacharie-là semble tout simplement avoir été un conseiller de Dieu auprès du roi Ozias. Alors lorsqu'on regarde ce qui concerne le roi Ozias, on se rend compte que Dieu lui a accordé beaucoup de succès, énormément de succès, un succès exceptionnel. Ce chapitre nous montre que ce succès se manifeste au moins sous quatre aspects. Le succès dans le domaine spirituel, le succès dans le domaine militaire en tant que roi, chef des armées, le succès dans le domaine économique et le succès dans sa réputation. On pourrait donc dire que Dieu a ouvert pour le roi Ozias les écluses des cieux et qu'il a répandu sur lui ses bénédictions, en abondance. Mais malheureusement, comme vous l'avez remarqué et comme vous le saviez, à la fin de sa vie, Ozias a négligé une qualité, voire une vertu indispensable, essentielle, la persévérance. Il nous faut persévérer jusqu'au bout. Et le sujet de la persévérance ne concerne pas simplement que le faire, nous allons le voir un peu plus tard. Alors, premièrement, quel type de succès? Premièrement, le succès spirituel. Si nous avions la possibilité ce matin de choisir le type de succès que nous voudrions avoir dans nos vies, est-ce que nous choisirions le succès spirituel? C'est à chacun de répondre pour lui-même, mais en tout cas, il semble que ce succès-là, le succès spirituel, soit le plus important. Avoir du succès dans notre relation avec Dieu, dans notre service pour Dieu. Alors, quel est ce succès spirituel d'Ozias? On le voit au verset 4, il nous est dit « Il fit ce qui est droit ». Et notez bien, ce qui est important, c'est qu'il a fait, aux yeux de qui il fit ce qui est droit. Aux yeux de qui? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et le complément de cette phrase est très important. Dans 1 Samuel, au chapitre 16 et au verset 7, voici ce qui nous est enseigné. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vivre dans ma vie, avec ce regard de Dieu sur moi, sur nous, doit nous inspirer, nous diriger, voire nous corriger. Dieu pouvait voir dans le cœur d'Ozias de la sincérité, de l'honnêteté, de l'intégrité. Ce roi Ozias était un homme de Dieu qui fait et qui a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et rien n'échappe aux yeux de Dieu. Ensuite, il y a un autre succès spirituel au verset 5. Il nous est dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait de l'intelligence, des visions de Dieu. S'appliquer. Faire de son mieux. Est-ce qu'en ce moment dans ma vie, je m'applique à la recherche de Dieu? À le connaître davantage? Est-ce que je fais de mon mieux pour le connaître mieux? Est-ce que je peux dire comme le psalmiste au psaume 42, « Mon âme soupire après toi, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Est-ce que je peux dire ça? Il nous est dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant la vie de Zacharie. Cet homme, Zacharie, a exercé une bonne influence sur Ozias. Il le stimulait dans le bon sens. Verset 5, « Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Alors je me pose une question. Ai-je de bons conseillers? En dehors de la parole de Dieu, conseiller par excellence, ai-je de bons conseillers? Une autre question. Suis-je moi-même un bon conseiller qui stimule mon entourage à suivre et à honorer Dieu? Parmi tous ces succès, le succès le plus important d'Ozias, c'est le succès spirituel. Est-ce qu'en ce moment, je ou nous désirons vraiment le succès spirituel? On peut lire dans le premier psaume, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Qui sont mes conseillers? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux, des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ozias a connu le succès spirituel. Et ce succès-là, ce succès spirituel, est devenu le fondement d'autres succès. Au verset 5, « Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer », c'est-à-dire qu'il a eu des succès dans d'autres domaines, sur d'autres plans. Ce succès spirituel fut suivi, nous l'avons lu, du succès militaire. Au verset 6 et 7, il nous est dit « Dieu l'aida contre les Philistins, contre les peuples qu'il a rencontrés, à les vaincre ». Dieu le fit prospérer et Dieu l'aida. Et ce sont des mots, Dieu l'aida, qui m'interpellent, je ne sais pas à vous. Nous voyons quand on se trouve dans des cimetières, sur des pierres tombales, certains épitaphes qui tentent de résumer ce qu'a été la personne dans sa vie, ses traits de caractère, ses qualités, voire ses motivations. Que voudriez-vous laisser comme trace? Que voudriez-vous laisser comme trace? Que souhaiteriez-vous, pour autant que vous le souhaitiez, que l'on inscrive comme épitaphe sur votre tombe? Est-ce que la phrase suivante vous conviendrait? Dieu l'aida. Quelle grâce de réaliser cet état de fait! Que Dieu aide ses enfants. Il en était question dans l'introduction. Est-ce que vous le réalisez pour vous-même, que Dieu vous aide? Dieu aida Ozias. Et au verset 8, il nous est dit, « Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. » Alors, outre le succès spirituel et le succès militaire, il connut aussi le succès économique. C'est ce qu'on a vu dans les versets 9 et 10. Ozias était un leader qui avait de l'intérêt pour beaucoup de choses. Construction, agriculture, élevage, des intérêts extrêmement variés dans lesquels Dieu le bénissait. Ensuite, il est question de son armée. Et avec son armée aussi, il a eu un grand succès. Un tiers de millions de soldats. Une armée ultra-moderne, verset 15. Machine moderne, lançant des flèches et des grosses pierres. On ne peut que être impressionné par la réussite d'Ozias. Succès spirituel, succès économique, succès militaire. Et pour finir, le succès dans sa renommée, dans sa réputation. Verset 15, la fin du verset 15, « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu. » Est-ce que nous aimerions être merveilleusement soutenus? Pas simplement soutenus, mais merveilleusement soutenus. La bonne main de Dieu était sur Ozias. Malheureusement, à la fin de sa vie, il a négligé cette vertu essentielle qu'est la persévérance. Et Ozias aurait dû persévérer dans plusieurs domaines dans lesquels il a failli. À l'introduction, j'ai dit que ce n'est pas simplement dans le faire qu'il s'agit de persévérer. Alors Ozias, premièrement, aurait dû persévérer au niveau de son cœur. Lisons la deuxième partie du verset 16. « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Son cœur s'éleva pour le perdre. Le problème, ce n'est pas le succès. Le problème, ce n'est pas d'avoir de la réussite. Et on se réjouit même pour nos proches, du succès, de la réussite. Il y a eu des examens, il y a eu des réussites. Le problème n'est pas non plus avec la puissance, mais le problème est dans le comment je pratique ou comment je vis ces choses, ces circonstances dans ma vie. Nous devrions toujours nous rappeler qui est la source de notre succès ou de nos succès. Les choses se gâtent pour nous lorsque l'on pense que l'on croit ou que l'on est responsable de notre succès. Grâce à nous. À l'origine, c'est nous. Dieu désire accorder du succès à chacun d'entre nous. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu veut nous donner du succès dans les œuvres qu'il a créées pour nous, qu'il a préparées pour nous d'avance. Mais il semble que ce soit très difficile pour l'homme et pour la femme de gérer le succès. Je ne voudrais pas que Dieu ferme le robinet des bénédictions dans ma vie à cause de l'orgueil qu'il y a dans mon cœur. Notre prière ce matin pourrait être, Seigneur, garde-moi humble, afin que tu n'aies pas à arrêter de répandre tes bénédictions dans ma vie, dans nos vies. Dieu a béni Ozias. Dieu aida Ozias. Il a soutenu merveilleusement Ozias. Mais le moment est arrivé où Ozias a oublié que tout cela venait de Dieu. Il a oublié que Dieu était la source de tout succès et qu'il est toujours la source de tout succès. Et je dois, et nous devons être vigilants avec ce piège qu'est l'orgueil. Son cœur s'éleva. Pourquoi ? Pour le perdre. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Pendant qu'Ozias marchait humblement avec son Dieu, Dieu l'a béni. Dieu l'a aidé, a répandu ses grâces sur son règne. Mais l'orgueil entra dans son cœur. Et Jacques, dans son épître, cite la parole de Dieu qui déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est vrai qu'il fait, il ajoute qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et au lieu de continuer de bénir Ozias, Dieu a été obligé de s'opposer à son serviteur. C'est extrêmement tragique. Dieu a été obligé de s'opposer à son serviteur. Alors, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité. La théologie de l'évangile de la prospérité enseigne qu'en plus du salut, le Christ promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi en lui. Il leur promet aussi, il leur promettrait aussi la richesse matérielle, la santé, le succès. Cet évangile-là de la prospérité est un faux évangile qui ne se trouve nullement dans l'évangile de Jésus-Christ qui est celui de la grâce seule. Le propos qui est le mien et l'échange qui est le nôtre ce matin est de souligner que les bénédictions de Dieu sont des grâces. Non pas des dûs, ni des récompenses en quoi que ce soit, et que Dieu ne nous doit rien. Mais les bénédictions de Dieu sont des grâces accordées, et que comme toute grâce, elles appellent à la reconnaissance, elles appellent à l'humilité et au bon témoignage, ce en quoi Ozias a failli. Seigneur, aide-moi à marcher humblement devant toi et avec toi afin de pouvoir témoigner dignement de toi. 1 Corinthiens 4, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui que nous n'avons pas reçu? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui que nous n'avons pas reçu? Tout vient de Dieu, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Son cœur s'éleva pour le perdre. Jérémie 9, 23, 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas par sa force, que le riche ne se glorifie pas par sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Le péché commence toujours dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quel genre de pensées nous avons parfois, hein ? Peut-être qu'elles font que traverser un instant notre tête, mais quand même. Des pensées telles, que ferait Dieu s'il ne m'avait pas ? Son cœur s'éleva pour le perdre. Osias a cessé de persévérer au niveau de son cœur. Mais dans un autre domaine aussi, Osias a cessé de persévérer. C'est au niveau de son comportement. On a vu le être, l'être, maintenant voir le faire. Il a cessé de persévérer au niveau de son comportement. Bien sûr, qui est engendré par le mauvais état du cœur. Hein, c'est la conséquence. Verset 16. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de l'Éternel. Je suis tellement grand. Je suis tellement puissant. Pourquoi les fonctions s'arrêteraient-elles à la direction du peuple de Dieu ? Et dans l'Église, la famille de Dieu. Puisque je remplis bien mon ministère, pourquoi je n'accomplirai pas tous les autres ministères ? Et Osias de se dire, pourquoi n'aurais-je pas le droit d'aller dans le temple comme les souverains sacrificateurs et d'offrir des parfums ? Psaume 30, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Osias. Son orgueil l'a poussé à ne pas se satisfaire de la place que Dieu lui a donnée. Et quelle place ! Quelle est la place que Dieu m'a donnée ? Dans ma famille ? Dans mon Église ? Est-ce que je me satisfais de cette place ? En m'acquittant de cette tâche, fidèlement et humblement. Mais Osias ne s'est pas satisfait de cette place. Les multiples grâces, c'est-à-dire les réussites et les succès que Dieu lui a donnés, ne lui suffisaient pas ou ne lui suffisaient plus. Dites-moi un peu, que pourrions-nous avoir ou vouloir de plus que les grâces de Dieu ? Mais Osias entra dans le temple. Et là, il nous est dit que des hommes s'opposèrent à lui, c'est les versets 17 à 19. Mais Osias alla encore plus loin. Et suite à la réprimande de ces hommes dont il nous est dit que c'était des hommes courageux, capables de s'opposer au roi, c'était pas rien, hein. Et ils étaient pas moins de 80 quand même pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que se passe-t-il ? La colère s'empara d'Osias. Et comme sa colère s'enflamma contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Alors je pense que vous l'aurez remarqué, mais c'est bon de le souligner quand même. Ce qui nous interpelle, c'est que la lèpre, qui est la conséquence du péché d'Osias, n'est pas apparue lorsque l'orgueil s'empara de son cœur. C'est pas là que la lèpre est apparue. La lèpre n'est pas apparue au moment où Osias a commis l'acte de désobéissance en entrant dans le temple. C'est pas là que la lèpre est apparue, c'est pas à ce moment-là. Mais la lèpre est apparue sur le front d'Osias lorsque celui-ci refusa de se repentir. Sa colère s'enflamma. Combien cela nous montre la patience de Dieu. Alors même que le péché est entré dans le cœur d'Osias, Dieu espérait qu'il allait se repentir.
Dieu espérait qu'il allait se repentir.
Lorsque nous sommes sur une mauvaise voie, le temps où le moment propice de la repentance nous est toujours proposé, toujours, toujours proposé. À nous de ne pas négliger ce temps, de ne pas manquer de le discerner. Lorsque, par exemple, des frères ou des sœurs me soulignent avec amour mes erreurs. 52 années de bon règne pour en arriver là. Contraindre Dieu à manifester son jugement à l'égard de son serviteur. Quelle leçon pour chacun d'entre nous et pour moi. Pour avoir oublié que tout vient de Dieu. Tout est grâce de sa part. Et en conséquence, je dois simplement marcher humblement. Tout faire pour achever la course, ayant marché humblement devant Dieu. C'est aussi cela, d'avoir combattu le bon combat. Marcher humblement devant Dieu. Alors bien sûr, ce serait trop facile de réduire la vie d'Ozias à ce dernier moment de sa vie, à son orgueil dans lequel il a été entraîné et par lequel il est tombé. Ce serait facile de jeter sur lui le discrédit, de le montrer du doigt. Tu vois, Ozias, hein. Mais il est bon que nous puissions nous retenir et apprendre de la vie glorieuse et riche, pleine de succès que Dieu a accordé à Ozias, parce qu'il a fait ce qui est droit à ses yeux, parce qu'il s'est appliqué à un moment de sa vie à chercher Dieu, et que c'est cet état de cœur-là, dans cet état de cœur-là, que Dieu l'a aidé, l'a merveilleusement aidé. Que Dieu puisse nous donner de conserver un cœur qui le cherche et qui le suit. Qui nous donne de veiller avec persévérance sur l'état de notre cœur, de ne pas y tolérer les mauvaises choses ou les mauvaises pensées. Le véritable succès, c'est de rester dans le plan divin, d'y marcher fidèlement et humblement. Que Dieu nous aide. Amen.